que vous connaissez tous, je suis un local, un sur la place, donc je suis de Genève. Je vais essayer de parler plus fort aussi. Si vraiment il y a un problème, vous me dites, hein, vous levez la main ceux qui sont derrière, puis vous me dites que voilà, qu'on n'entend plus rien, alors je vais vraiment essayer d'augmenter le volume. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Donc le sujet que je vais traiter est finalement un sujet qui est très complémentaire à celui qui a été traité par Charles, c'est-à-dire quelle place doit avoir la culture dans la vie du chrétien, vivre dans l'Église aujourd'hui. Hein, vivre dans l'Église aujourd'hui, quelle place pour la culture dans notre, je dirais, vie de chrétien à l'heure actuelle. Alors vous savez, comme je suis un homme de loi, hein, juriste de formation, puis j'aime bien les lois souvent sont, je dirais, évoluent en fonction du contexte socio-économique, en fonction de la culture, de la même manière que la culture influe beaucoup sur les lois, compte tenu des mœurs. J'ai dénifié il y a quelques temps dans un article de la Tribune de Genève de vieilles et authentiques lois, qui sont déjà désuètes, c'est sûr, mais de vieilles et authentiques lois qui, je dirais, s'inséraient bien dans la culture de l'époque. Et il s'agit des lois qui ont existé il y a des décennies aux États-Unis. Alors, quelques échantillons. Alabama. Il est illégal de porter une fausse moustache qui puisse causer des rires à l'église. Donc ça, j'espère que la tienne, la barbe, elle est vraie, hein, parce que là c'est fini, hein. Bon. Alaska. Il est légal de tuer les ours, mais illégal de les réveiller pour les photographier. Rhode Island. Il est illégal de vendre du dentifrice et une brosse à dents au même client un dimanche. Kansas. Il est illégal de lancer un couteau sur les personnes vêtues d'un t-shirt à rayures. Sans doute parce qu'il est confondu avec les prisonniers, peut-être. Hein. Alors, tac. Bon. Texas. Les malfaiteurs ont l'obligation de prévenir leurs victimes 24 heures à l'avance et par écrit des délits qu'ils vont commettre. Oh, c'est très bien, c'est très préventif. Ohio. Les femmes n'ont pas le droit de porter des chaussures en cuir, car on peut voir leurs sous-vêtements par réflexion. Louisiane. Il n'est pas considéré comme une agression le fait de mordre quelqu'un. Cela le devient si l'agresseur porte de fausses dents. Ça va, je suis couvert. Floride. À Saratossa, il est illégal de chanter en maillot de bain. Indiana. À Fort Madison, les pompiers sont tenus à 15 minutes d'échauffement avant d'attaquer un incendie. Bon, tout en a brûlé en intervalle. Hein. Maine. Il est interdit de chatouiller sa femme avec un plumeau. Boston. Il est illégal de prendre un bain sans prescription médicale. Bon, alors là, on devrait chaque fois aller chez un médecin. À Washington, les femmes s'asseyant sur les genoux d'un homme dans le bus ou dans le train sans mettre de coussin entre eux risquent 6 mois de prison. Bon, c'est fort, hein. Et enfin, New Jersey, il est illégal de faire la gueule à un agent et des grimaces à un chien. Alors, la culture. Hein. La culture. Alors, il est certain que la culture, c'est quelque chose qu'on a vu qui présente des dangers, et Charles l'a dit bien, mais c'est quelque chose qui peut aussi nous faire rire. Hein. Il y a les deux côtés. Et je vais traiter ce sujet, je dirais, sous l'angle, puisqu'on parle de la culture qui doit, disons, être gérée dans notre vie de chrétien, toute l'étude tournera finalement entre le culte et la culture. Qu'est-ce que le culte? Qu'est-ce que la culture? Alors, il est intéressant déjà de relever d'un point de vue étymologique, et vous l'avez remarqué, que dans le mot culture, vous avez déjà le mot culte. Et j'ai fait une recherche un petit peu plus poussée là-dessus. Bon, c'est vrai que les dictionnaires qui, disons, sont classiques, comme Robert, ne donnaient pas trop d'indications. Mais après une recherche poussée, je me suis rendu compte que les termes culture et culte ont, en latin, le même ancêtre, si vous voulez, la même racine, qui vient du mot colere. Bon, rien à voir avec la colère, ou le choléra, ou encore le cholestérol. Mais colere, qui signifie cultiver ou soigner. C'est intéressant, ça. cultiver ou soigner. Et de ce mot colere provient un substantif verbal cultus, qui signifie action de soigner ou action de cultiver ou encore pratiquer une chose. Donc c'est assez intéressant de voir que ce mot cultus est tiré du mot colere, et le mot cultus était souvent utilisé justement en rapport avec les hommages qu'on rendait à la patrie, qu'on rendait à la famille, qu'on rendait à des dieux, hein, à des dieux. Et c'est finalement par cette pratique, par cette acceptation, que c'est devenu par métaphore, finalement le terme colère est devenu par métaphore un terme qui signifie adorer ou vénérer. Donc si vous voulez, vous avez le mot colère qui donne une première racine, le mot cultus. Alors, je ne suis pas un expert en latin, hein, donc s'il y a des erreurs, ça ne peut pas, c'est juste une vision générale. Cultus. Donc là, nous avons cultivé ou soigné. Vous avez le mot cultus qui a finalement été utilisé, on dit par métaphore, pour être adoré, vénéré. Et puis vous avez une autre racine du mot colere qui était cultum, qui a après donné le mot cultura, dans le sens de finalement cultiver la terre. Donc ça signifie après cultiver la terre. Une fois, c'est la culture, hein, dans le sens paysan. Et par la suite, ça a été transposé dans le contexte social en tant que culture. Alors, c'est assez intéressant de voir que ce terme colere a engendré, disons, une appellation pour une pratique qui était plus orientée vers le haut, vers Dieu, puis en même temps une pratique vers le bas qui est le sol, hein, cultiver le sol. Bon, c'est une petite anecdote, une petite curiosité. Alors, qu'est-ce que la culture? Qu'est-ce que le culte? Il faut définir ces choses-là, puisqu'on parle du culte et de la culture. Alors, selon la Bible, vous savez, on peut parler de trois sortes de cultes. Et Don nous l'a déjà raconté une fois. Vous avez trois sortes de cultes. Vous avez le culte en assemblée, le dimanche matin, qu'on aura demain matin. Vous pouvez avoir un culte individuel. Vous pouvez louer Dieu individuellement ou avec un groupe restreint de personnes, comme l'avait fait par exemple Pierre en prison, n'est-ce pas? Et puis vous avez, selon la Bible, ce qu'on appelle le culte raisonnable. Le culte raisonnable, dans Romains 12, 1 et 2, où il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, voici le culte, je dirais. Le culte est raisonnable. Le sacrifice vivant de tous les jours à Dieu. Une obéissance journalière, d'accord, qui engendre un comportement. Ce n'est pas une obéissance abstraite ou théorique, mais une obéissance concrète et pratique. A l'inverse, qu'est-ce que la culture? Alors vous savez, un anthropologue célèbre, un certain Kroeber, a recensé plus de 150 définitions de la culture. Donc, si on a une retraite par année, dans 150 ans, on est encore là. Si on devait couvrir le sujet. Mais bon, je peux vous proposer une définition de la culture qui, à mon avis, sera bien utile pour notre étude aujourd'hui. La culture est l'ensemble des comportements, savoir et savoir-faire caractéristiques d'un groupe humain ou d'une société donnée, ces activités étant acquises par un processus d'apprentissage et transmises à l'ensemble de ses membres. Autrement dit, l'ensemble des comportements, savoir et savoir-faire. Ça, c'est la première partie de la définition que je garderai. Donc, vous avez quoi? Vous avez le culte, un sacrifice vivant de tous les jours, un comportement selon la volonté de Dieu, et vous avez d'un autre côté un conditionnement, n'est-ce pas, une initiation par la culture dans laquelle on vit, aussi à des comportements, à des savoirs et à des savoir-faire. Et comme l'avait déjà dit Charles tout à l'heure, vous avez comportement culturel, vous avez comportement cultuel, et il y a des affrontements. En tout cas, il peut y avoir des affrontements, et on va traiter cela. Et ces affrontements ont existé au 1er siècle, mais ils existent aussi aujourd'hui. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Alors quand on parle du culte et de la culture, j'aimerais peut-être parler évoquer trois principes, à mon avis, qui sont fondamentaux. Tout d'abord, quand on oppose le culte ou la culture au culte, on parle, je dirais, du relatif face à l'absolu. Ça, c'est important, ça. Le relatif face à l'absolu. Prenons un exemple. Prenons un exemple très simple, assez intéressant, la manière de se reposer. Vous avez des sociétés où les gens dorment au sol, et vous pouvez être sûr que ça sera très difficile pour eux de dormir sur un matelas. Ou pour nous, on ne s'imagine pas dormir ici par terre, là, sur ce parquet, enfin, ce sol dur, n'est-ce pas? Nous, il nous faut un matelas. De même, je ne pense pas qu'on pourrait se reposer dans un hamac. Bon, tout au plus, peut-être une petite sieste, mais en tout cas pas la nuit, comme c'est le cas des sociétés brésiliennes. Au Brésil, les gens souvent se reposent et dorment dans un hamac. Ou encore, dans des sociétés asiatiques où les gens se reposent sur un seul pied. Je ne sais pas comment ils font, mais voilà, un petit peu comme une statue là, au disco ball. Donc, il y a des variations culturelles, d'accord? Il y a des variations, des variantes dans chacune des sociétés, et c'est quelque chose qui est relatif, subjectif. Prenons par exemple aussi le modèle du mariage, n'est-ce pas? Celui-ci change selon les sociétés. Nous sommes dans une société essentiellement monogamique, il y a des sociétés polygames, ou encore des sociétés polyandres. Polyandre, c'est-à-dire une femme avec plusieurs maris. Et même tout récemment, vous savez qu'avec l'introduction du Pax, on veut commencer à instaurer un modèle de monogamie homosexuelle. Hein? Quelque chose de nouveauté dans les mœurs, en tout cas, dans notre civilisation. Par contre, si vous prenez Dieu, enfin, sa volonté et le culte qu'on doit lui rendre, le sacrifice vivant, vous n'aurez toujours qu'un seul modèle, en tout cas lorsqu'on parle de christianisme, un seul modèle unique et absolu, qui est de la monogamie entre un homme et une femme. Quelle que soit la culture dans laquelle vous vivez, quelle que soit l'époque, peu importe que vous êtes, disons, entouré de sociétés polygames, polyandres ou monogames, homosexuelles, pour vous, toujours, vous vous conformez au seul modèle de la Bible qui est le couple hétérosexuel, hein, entre un homme et une femme. Deuxième principe que j'aimerais évoquer, c'est opposer le muable face à l'immuable. Quelque chose de muable face à l'immuable. Et en Suisse, je vous donnerai par exemple l'exemple de l'adultère qui est assez intéressant sur le plan social. L'adultère en Suisse, encore au siècle passé, au début du siècle passé, était puni pénalement. Vous pouviez faire de la prison parce que vous avez trompé votre femme ou trompé votre mari. C'était ce qu'on appelait des infractions contre la famille. Donc, par l'adultère, la société de l'époque, elle l'a consacré dans les textes de loi, estimait que quand on procédait à l'adultère, on mettait en danger non seulement les enfants, mais aussi tout le bien-être de la famille. Et c'était une infraction contre la famille. Sans parler que sur le plan civil, c'était la première cause et la plus importante pour obtenir un divorce, par exemple. Hein, c'était vraiment la première chose. Dès le moment où vous invoquiez et vous prouviez devant un juge qui avait dit adultère, celui-ci, alors là, n'avait aucune hésitation à prononcer le divorce. Il disait, c'est justifié. Un siècle a passé, nous sommes à l'aube du troisième millénaire, d'un nouveau siècle, et l'adultère a été complètement abrogé du code pénal, n'existe plus. Et aussi, dans le nouveau droit du divorce suisse, l'adultère n'est plus considéré comme une cause valable pour le divorce, par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes passés, en l'espace d'un siècle, en Suisse en tout cas, d'un état, je dirais, d'illégalité quasi absolue de l'adultère, vers une légalité quasi absolue. Hein, d'un état d'illégalité vers la légalité. Il n'y a plus de pénalité. Vous pouvez tromper votre épouse quand vous voulez. Elle peut même obtenir le divorce. En tout cas, pendant 4 ans. C'est ça la loi. Après, elle peut, sur demande unilatérale. C'est, personnellement, je trouve un peu choquant. Si vous regardez la Bible, et vous regardez la volonté de Dieu, l'adultère de tous les temps, et là je parle de l'immuable, a toujours été considéré comme un péché. Grave. Et il y avait des sanctions. Et il y a une pénalité. Dans l'Ancien Testament, on parle de lapidation. Dans le Nouveau Testament, on parle comme sanction le droit pour l'autre de demander le divorce. Donc ce n'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Aujourd'hui, en Suisse, peu importe. Donc j'oppose le muable face à l'immuable. C'est important. Et finalement, troisième chose, bien sûr, on parle du temporel face à l'éternel. N'est-ce pas? Le temporel, nous avons vu qu'il y a une muabilité, qu'il y a des changements, il y a des choses subjectives. et ça c'est temporel. Il y a des valeurs qui disparaissent, d'autres se retrouvent, et ainsi de suite. Quand on parle de la parole du Dieu du culte que nous devons lui rendre, c'est un culte éternel. Il y a, c'est immuable, c'est une seule chose qui compte. Christ a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, je crois que ces principes, faut avoir en tête que lorsque nous voulons rendre un culte à Dieu, lorsque nous voulons lui obéir, nous devons le faire de manière absolue, et qu'à côté, il y a tout un aspect muable, subjectif, qui est l'aspect culturel qui nous environne. Alors, puisque nous allons parler d'affrontement, n'est-ce pas ? J'aimerais me consacrer maintenant sur la deuxième partie de cette définition. Vous avez vu l'ensemble des comportements, savoir et savoir-faire, mais la définition continue en disant « Ces activités étant acquises par un processus d'apprentissage et transmises à l'ensemble de ses membres. » Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'une société ou un groupe d'hommes qui a développé des rites, qui a développé des comportements, des pratiques, des mœurs, des valeurs, elle ne va pas se contenter d'en rester là. Puisqu'elle s'identifie à ses valeurs, puisqu'elle s'identifie à ses pratiques, elle va vouloir bien évidemment les transmettre de génération en génération. Une forme de perpétration, c'est une forme perpétration de la culture. Un petit peu le même principe ce que disait Paul à Timothée, ce que tu as entendu de moi, enseigne aux autres, qui pourront eux-mêmes constituer. Donc, le monde, applique déjà ce principe lorsqu'il en va de sa propre culture. En tout cas, les sociétés le font lorsqu'il en va de leur propre culture. Les institutions éducatives comme des familles, des écoles ou des rites d'initiation ont pour but, conscient ou inconscient, bien évidemment, de remplir les esprits jeunes ou les esprits des enfants avec leurs propres valeurs et leur propre culture, n'est-ce pas ? De sorte que chaque génération qui s'est vue appliquer un certain schéma va le reproduire à la génération d'après. Autrement dit, il y a, je dirais, dans la société dans laquelle nous vivons, et depuis toujours finalement, une pression, une véritable pression, un conditionnement, une incitation ou encore une initiation à ce que chaque nouvelle génération pratique les valeurs ou les comportements qui ont été déjà mis en place par la société. Et ça nous touche tout le monde, c'est nous tous. C'est vrai que si peut-être on grandit dans une famille chrétienne, les parents déjà quelque part filtrés peut-être entre ce qui est vraiment, qui vient de Dieu, ce qui est culturel, mais vous avez des écoles, n'est-ce pas, vous avez des universités ou même le travail où on vous presse, on veut, quelque part il y a une pression massive à ce qu'il y ait une reproduction de ces comportements dans notre propre vie. Alors, comment gérer cela ? Comment gérer un commandement, des commandements qui viennent de Dieu et des pressions qui viennent de la culture ? Autrement dit, la question revient à se poser, quelle place, et c'est la question cruciale de l'étude, quelle place doit avoir la culture dans la vie du chrétien ? Autrement dit, quelle place pour la culture dans le culte du chrétien ? Alors vous savez, c'est une question que les juristes aiment bien. Parce que, pas en raison de la nature de la question, mais en raison de la nature de la réponse. Parce que la réponse à cette question est, ça dépend. Ça dépend. N'est-ce pas ? Nous, les juristes, on aime bien quand c'est pas clair. On aime bien nuancer. On n'aime pas toujours quand c'est oui et non. On dit, ça dépend. Oui. Quand un client vient vous voir, puis il nous présente un cas, comme ça, dit, vous savez, ça dépend. Hein. Ça dépend, en tout cas. Comme ça ou comme ça, ça dépend. Comme ça, on se couvre. Mais, bon, peut-être que je me couvre ce matin aussi, mais... mais je dirais personnellement que ça dépend quelle place donner à la culture dans notre vie du chrétien. Parce que je dirais que, après avoir fait peut-être une analyse, un auto-examen de moi-même, puisque j'ai vécu en Pologne, j'ai vécu en Suisse, j'ai vécu aux États-Unis, donc j'étais un petit peu modelé par différentes sortes de cultures. Je pense que vous l'avez aussi vécu de votre propre côté. Je pense qu'on peut dire qu'il y a trois cas de figure. Vous avez des cas où, je crois, la culture, ou des pratiques, ou des comportements qu'on vous a transmis, convergent, finalement, avec les commandements de Dieu. Il peut y avoir des convergences. Je prends un exemple. La Pologne, par exemple, puisque je prends l'exemple de la Pologne, c'est un pays extrêmement hospitalier. C'est très hospitalier. Quand vous allez là-bas, vous pouvez être sûr que quand on vous recevra, les Polonais vous demanderont toujours quelque chose de spécial, qu'ils ont gardé peut-être des années, qu'en temps ordinaire, ils ne partageraient peut-être pas, mais quand il y a un invité, ils le sortiront. Il y a une forme d'hospitalité. Je sais que quand j'ai grandi vraiment avec des invités à la maison, tout le temps. Mon père est très hospitalier, il reçoit beaucoup de gens. Et j'ai été habitué, finalement, à l'hospitalité, initié à l'hospitalité assez tôt. Or, la Bible nous dit pratiquer l'hospitalité, subvenir aux besoins des saints. Donc, il y a une pratique ici. Je ne dis pas qu'il faut intégrer la culture dans le culte, mais je dirais qu'il y a une pratique qu'on peut emprunter. Une bonne pratique de laquelle on peut s'inspirer et emprunter de la culture pour, je dirais, l'intégrer dans notre adoration, dans notre culte à Dieu, dans la vie de tous les jours. N'est-ce pas? Je ne pense pas que c'est mauvais, je pense que c'est très bien. Et nous pouvons l'intégrer et l'améliorer, cette pratique. D'autant plus, avoir plus de, peut-être de zèle et se distinguer dans l'hospitalité par rapport aux autres personnes qui pratiquent elles-mêmes l'hospitalité. Un autre exemple, c'est par exemple, enfin, je me répète, mais un autre exemple, c'est la solidarité. Vous savez que la Pologne, c'est un pays qui s'est forgé, qui se forge toujours sur, un esprit des solidarités. On l'a vu par exemple avec l'écroulement du communisme, Solidarność. Il y a un esprit de solidarité qui est, assez vite inculqué aux jeunes. D'accord? Alors, bien que le Nouveau Testament n'emploie pas le terme de solidarité, il en fait quand même référence. Quand il dit « pleurez avec ceux qui pleurent » et « réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». C'est une question de solidarité, être solidaire avec ceux qui sont dans la joie, être solidaire avec ceux qui sont dans la souffrance. Et je pense que là aussi, personnellement, je peux tirer de ma culture polonaise une bonne pratique. Je peux l'emprunter, je peux m'inspirer de cette pratique-là. C'est quelque chose qui va déjà m'aider à la base, puisque c'est un comportement qu'on a voulu m'inculquer, qui va déjà m'aider à la base à pratiquer la parole de Dieu, mieux la pratiquer en tout cas. Plutôt que quelqu'un qui provient d'une famille froide, qui n'a jamais vu, qui n'a jamais dit bonjour à son voisin, puis d'un coup on nous dit de pratiquer l'hospitalité, là faut travailler. Hein. Là ça demande un effort considérable, peut-être, selon les cas. Donc ça c'est, je dirais, le premier aspect où je vous dis il y a une convergence. Le deuxième aspect, c'est là vraiment l'aspect le plus dangereux, finalement, le plus important, c'est quand il y a une divergence. Et je crois que au premier siècle, comme nous a dit Charles, il y a eu énormément de divergences, mais des divergences quasi, je veux dire, opposées à 180 degrés, où il y a vraiment une mise en danger des pratiques culturelles sur la vie du chrétien, dans la vie du chrétien. Par exemple, je vous donne un exemple toujours pour la Pologne. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « sous comme un Polonais ». J'en suis pas fier, je vous le dis tout de suite, je me disculpe. Et on dit « sous comme un Polonais », et d'ailleurs, quand vous lisez par exemple une œuvre littéraire qui est Ubu Roy, vous allez voir « sous comme un Polonais hein, ». Ça revient assez souvent comme expression. Alors, je ne cache pas qu'effectivement, les Polonais, dans leur culture, ont une tendance à l'excès de boissons, et notamment à l'excès de la vodka. Bon, beaucoup de peuples, n'est-ce pas? En tout cas, moi je parle surtout de la Pologne, je sais qu'il y a un excès de boissons au niveau de la vodka. Or, les excès de boissons, les excès de table et tout ce genre de choses est expressément répréhensible et condamnable par Dieu. Donc voilà une pratique à laquelle peut-être on initie assez tôt, où on veut, m'inciter, tu veux dire, voilà, ouais, fais comme tout le monde, regarde, c'est la vodka, c'est tout le monde, n'est-ce pas? Mais moi je dis non. Moi je dis non. Je ne suis pas un buveur de vodka, je ne touche pas la vodka. Je dis non. Donc voilà un comportement qu'il faut avoir qui se distingue de la culture ambiante ou de la culture qui nous environne. Mais chacun pour vous pouvez faire cet examen, faire un bilan de ce que vous voulez vous inculquer ou vous apprendre et faire un tri. Et puis enfin, je dirais il y a un troisième aspect, donc la convergence-divergence, et finalement un aspect, je dirais, neutre. Une forme de neutralité, vous avez des comportements qu'on vous a inculqués dans votre culture qui finalement sont vraiment sans incidence ou sans aucune influence sur la façon d'adorer ou de rendre un culte à Dieu. J'ai mentionné tout à l'heure la variation du repos, hein, qu'on se repose par terre, qu'on se repose dans un matelas, dans un hamac ou encore qu'on tombe sur un seul pied, pour Dieu je crois que c'est égal. Tant que nous nous reposons et que nous nous levons frais le matin pour l'adorer, je crois que Je crois que c'est ce qui compte pour lui beaucoup plus que la façon de nous reposer. Donc le principe, est-ce que la culture doit être bannie de notre vie? Ça dépend. Oui et non. D'accord? Le principe étant, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses. Bien que c'est dit dans un contexte bien spécifique des prophéties du Saint-Esprit, je pense que le principe général, l'exhortation, peut être global pour tout. Ça concerne tout, ça concerne la culture, ça concerne l'éducation. Comme un sujet de ma famille, moi j'ai reçu une éducation qui n'est pas chrétienne. Mais ce n'est pas pour autant que je vais faire table rase et la rejeter entièrement. Je filtre et je retiens ce qui est bon dans ce que j'ai reçu. Et ce qui est mauvais, je le rejette parce que c'est incompatible avec le culte que je dois rendre à Dieu. Donc, je dirais, il faut avoir ici du discernement. Le discernement, c'est important, c'est capital dans notre vie de chrétien aujourd'hui, surtout quand il en va de la culture et de l'adoration de Dieu. Parce que si, admettons, nous continuons, lorsqu'il y a un cas de divergence, n'est-ce pas, entre la culture et la volonté de Dieu, et que nous continuons néanmoins à, je dirais, nous fier et pratiquer la culture, on peut tomber dans le piège du culte de la culture. Je parle ici du culte de la culture, et qui dit culte de la culture dit forcément idolâtrie. Le même danger existait pour les chrétiens du 1er siècle, le même danger existe aujourd'hui pour nous. On peut tomber dans le piège du culte de la culture si nous n'avons pas de discernement. Ça, c'est très important. D'accord ? La culture est un fruit de l'homme. Donc, en adorant quelque part la culture, en lui rendant un culte, nous rendons un culte finalement à un homme, ou à une société, ou à un groupe d'hommes, et c'est une créature. On adore plus la créature que le créateur. Alors, puisqu'il y a ce danger, n'est-ce pas, du culte de la culture, comment gérer la culture? Comment gérer dans notre vie? Et là, j'aimerais peut-être donner quelques solutions, peut-être quelques conseils, n'est-ce pas, quelques modestes conseils, pour peut-être gérer cette culture dans notre vie. Alors, le premier, une des premières solutions, je crois, c'est prier pour le discernement. Je l'ai déjà dit, mais je crois qu'il faut répéter. Priez pour le discernement. Dans Romains 12, 2, il est dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que vous discerniez la volonté, que vous, comme disait Charles, qu'on dégage ce qui est culture comme héritage et ce qui est volonté de Dieu. Ça, c'est extrêmement important. Alors, je pense que nous tous, nous voulons faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons tous ces bonnes intentions, ce bon zèle qui est là. Et je pense qu'avec un peu d'étude, avec de la discipline, avec la présence le dimanche matin, le mardi à l'étude, on peut petit à petit commencer à discerner ce qui est volonté et ce qui est culture. Assez vite peut-être, si on est très zélé, si on est très discipliné. Souvent, ce qui est assez intéressant, ce que j'ai remarqué, c'est que il faut aussi discerner la façon dont on applique les commandements de Dieu. Soit donc il faut déjà discerner ce qui est commandement de Dieu, ce qui est culture, mais aussi peut-être après discerner comment appliquer un commandement de Dieu. Et souvent Dieu ne donne pas de marche à suivre. Et puisqu'il ne donne pas de marche à suivre, souvent nous sommes confrontés les uns avec les autres sur la façon d'appliquer les commandements de Dieu, et c'est là que parfois nos divergences culturelles ressortent. C'est ça qui est assez intéressant. Nous avons une façon d'aborder un problème, mais quelqu'un qui proviendra d'une autre culture, une société, aura une autre façon d'aborder le problème. Donc je dirais que le discernement ici se trouve à deux niveaux. Tout d'abord, distinguer de manière générale ce qui est volonté de Dieu et ce qui est culture. Mais après, le discerner entre, je dirais, discerner vraiment comment appliquer la volonté de Dieu dans la vie de tous les jours, concrètement, puisque Dieu demande un sacrifice vivant tous les jours, concrètement. Ce n'est pas un sacrifice abstrait qu'il demande, c'est un sacrifice concret. Et là aussi, nous devons discerner cela, parce que je pense que nous devons appliquer la volonté de Dieu avec sagesse. On ne peut pas l'appliquer bêtement et aveuglement, en disant, ah oui, moi dans ma culture, on m'a appris de faire comme ça, je vais faire comme ça. Et puis quelqu'un d'autre arrive, non, moi dans ma culture, c'est comme ça, je fais comme ça. Et puis, il y a un aveuglement, il y a, je dirais, une application instantanée de la culture. Je pense que ce n'est pas très sage. Je pense qu'il faut discerner et peut-être même se distancer de la façon dont nous avons été peut-être éduqués ou inculqués dans le fait d'appliquer la parole de Dieu. Là aussi, il faut rechercher la sagesse de Dieu. Et je pense que c'est un commandement d'agir avec sagesse. Alors, le discernement, ça me fait penser à cette histoire, une petite histoire, pour aérer un petit peu ce gros bloc, ce gros chantier de la culture. Un voyageur en quête de Dieu demande à l'enseignant de lui apprendre à faire la distinction entre un mauvais enseignant et un enseignant authentique. Éternelle question, qui est un bon enseignant, qui est un mauvais enseignant? Alors il lui répond, un bon enseignant offre la pratique, un mauvais que des théories. Mais comment faire la différence entre une bonne pratique et une mauvaise? Alors il lui répond, de la même façon qu'un fermier sait distinguer entre une bonne récolte et une mauvaise. Donc je dirais que c'est une autre façon de dire, on récolte ce que l'on sème. D'où l'importance du discernement dans l'application de la parole de Dieu, n'est-ce pas? D'où le discernement, je dirais l'importance parfois de se distancer de notre propre culture. Parce que peut-être ce n'est pas sage si on l'applique automatiquement. Donc, on peut discerner si nous avons bien appliqué la parole de Dieu par le résultat. S'il y a du fruit spirituel, s'il y a des bonnes choses, s'il y a de la joie, si je dirais il y a de la paix, là on peut dire c'est une bonne application. C'est une bonne application dans la sagesse de Dieu. Si par contre le résultat est mauvais, le résultat peut être charnel, alors là c'est clair que la récolte, elle n'est pas terrible. Hein. Donc on n'a pas, je pense bien, vu l'application. Dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, il est dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez et regardez, examinez le résultat. » Donc je dirais que une façon, je dirais, d'acquérir le discernement, c'est observer le résultat. Observer le résultat et de s'éprouver, d'examiner les résultats. Et puis peut-être un deuxième conseil, c'est, je dirais aussi, avoir la patience, une certaine patience. Parce que on sait, selon Hébreux 5, versets 13 et 14, que le discernement s'acquiert avec le temps, selon la Bible, par l'expérience de la parole de justice ou par l'usage. Alors c'est clair que si on se fait baptiser et puis on est jeune dans la foi, on n'a peut-être pas tout de suite le discernement. Hein. C'est comme un bébé qui doit grandir. Le discernement vient avec, petit à petit, quand on grandit, avec l'âge adulte. Donc c'est important d'avoir de la patience vis-à-vis de soi. C'est très important d'avoir de la patience. Et une expression familière du discernement, souvent, qu'on utilise, c'est « prendre du recul ». Il faut que je prenne du recul, je me distance par rapport à la réalité, tac, 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 je mets les choses en place, et puis je discerne, je me retrouve là-dedans. C'est un petit peu pareil, prendre du recul. Il faut être patient dans le fait de prendre et de savoir prendre du recul. Par exemple, dans l'Ancien Testament, le peuple juif, n'est-ce pas, a vécu un grand exode. Hein, il était en esclavage, il était sous l'oppression, il a été libéré vers le pays promis. Et il y avait, je dirais, cet exode hein, de l'esclavage vers le pays promis. Et plus il s'éloignait, je dirais, d'Égypte, plus il pouvait prendre du recul. Hein. Bon, il prenait du recul physiquement. Plus il pouvait se dire, ah ouais, là, finalement... Mais problème par manque de foi, ça ne s'est pas passé comme ça. Bon, espérons qu'on ait, nous, peut-être plus de discernement, plus de sagesse, parce que nous aussi, nous vivons une exode. Et nous le savons. N'est-ce pas, nous avons été libérés du péché du monde, et plus nous grandissons, plus nous croissons dans la foi, plus nous nous approchons du ciel, n'est-ce pas, de ce pays promis. Alors, plus nous nous approchons du ciel, plus nous prenons du recul par rapport, je dirais, au monde et au péché. En tout cas, nous sommes censés de prendre du recul par rapport au monde et au péché. Et ça, c'est très important. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 1 et 2, il est dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier de mon Seigneur, à marcher avec patience. » Ensuite, nous avons vu que Paul a dit « Éprouvez-vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. » Et Jacques conclut en disant « La mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. » Donc il y a un cycle, n'est-ce pas, il y a un cycle spirituel. Hein, patience, épreuve, discernement, patience. Et ainsi de suite. Et on peut grandir dans le discernement, on peut avoir la patience par rapport à soi et discerner la culture de ce qui est la volonté de Dieu. Conclusion. Alors que dire? Ça dépend. En fait, je vais vous laisser avec une réflexion qui n'est pas la mienne. C'est une réflexion que j'ai trouvée sur Internet, qui est d'ailleurs très très intéressante. C'est une réflexion d'une jeune étudiante colombienne qui, je crois, a vraiment très très bien saisi le mode de vie, la culture et la pensée dans lesquelles on vit actuellement. On dit souvent que les jeunes ne remarquent pas grand-chose, mais je peux vous dire que là, on reçoit sa claque, hein, parce que je crois qu'elle a très bien photographié et saisi notre culture d'aujourd'hui. Alors voici ce qu'elle dit. Le paradoxe de notre époque dans l'histoire est que nous avons des bâtiments plus élevés, mais des caractères plus bas, des routes plus larges, mais des points de vue plus étroits. Nous dépensons davantage, mais nous possédons moins. Nous achetons plus, mais la pression moins. Nous avons des maisons plus grandes, mais des familles plus petites. Plus de confort, mais moins de temps. Nous avons plus d'éducation, mais moins de bon sens. Plus de connaissances, mais moins de discernement. Plus d'experts, mais plus de problèmes. Davantage de médicaments, mais moins de bien-être. Nous avons multiplié nos possessions, mais réduit nos valeurs. Nous parlons trop, aimons trop rarement, et haïssons trop souvent. Nous avons appris à gagner notre vie, mais pas de faire notre vie. Nous avons ajouté des années à nos vies, mais non de la vie à nos années. Nous avons voyagé jusqu'à la lune aller-retour, mais éprouvons les difficultés à traverser la route pour rencontrer notre nouveau voisin. Nous avons conquis l'espace extérieur, mais non l'espace intérieur. Nous avons purifié l'air, mais pollué notre âme. Nous avons dispersé l'atome, mais pas nos préjugés. Notre revenu s'est accru, mais notre moralité a diminué. Nous sommes devenus forts en quantité, mais faibles en qualité. C'est l'époque des hommes grands, mais aussi des caractères bas, l'époque des profits profonds et des relations superficielles. C'est l'époque de la paix mondiale, mais des guerres domestiques. Nous avons plus de loisirs, mais moins de joie. Plus de différentes sortes d'aliments, mais moins de nutrition. C'est l'époque de deux revenus au foyer, mais aussi de divorces. Des maisons plus élaborées, mais aussi des familles brisées. Une époque où la technologie peut vous permettre d'accéder partout à cette lettre, et une époque où vous avez le droit de choisir et faire la différence. Alors faisons la différence, parce que la question est, qui veut aller au ciel ? Je vous remercie.